Oh, ça va évoluer. C'est en train d'évoluer. Et je pense que les femmes elles-mêmes ne doivent pas se limiter. Et puis ensuite, autour d'elles, le monde doit changer aussi. Et il est en train, l'œil s'habitue. J'ai souvent dit, moi, l'œil n'est pas habitué. Je crois que c'est juste ça. On n'a pas l'habitude de voir une femme à la tête d'une organisation. Bon, bah, il faut que ça vienne.
Et voilà ce que disait Isabelle Cochère, la patronne d'Engie, fin 2018 sur France Inter, dans la matinale. Voir une femme à la tête d'une entreprise, faut que l'œil s'habitue. Un an plus tard, la seule femme à la tête du CAC 40 vient de se faire débarquer, et c'est elle. A-t-elle été maltraitée ? Alors sans doute, mais pas particulièrement. Hein. Pour ceux qui se souviennent de 2014, quand elle remplace le numéro 2 de l'époque, un homme, à lui c'est sûr, on n'a pas reproché son manque d'intelligence émotionnelle, mais on n'était pas non plus dans la douceur. A-t-elle démérité ? Écoutez, aujourd'hui, les analystes financiers ne le pensent pas, ne le pensent plus. On pourrait aussi ajouter que le conseil d'administration, l'État actionnaire, ont été quand même beaucoup plus patients avec son mentor Gérard Mestrallet, qui était, c'est sûr, une figure du capitalisme français. Était-elle la bonne personne à la bonne place ? Ce qui est certain, c'est que se mettre à dos son prédécesseur, son successeur et ses administrateurs ne permet pas d'espérer un avenir radieux, et c'est là la faille d'Isabelle Cochère. Donc cette éviction est-elle misogyne ? Vous jugerez, moi je botte en touche. En tout cas, ce qu'on retient, c'est le symbole d'une patronne qui s'affichait verte, championne de la conciliation de l'écologie et de l'économie, et qui est écartée. Et la tribune des politiques n'y a rien changé, voilà pour le nouveau capitalisme, hein, celui qui était censé prendre en compte les parties prenantes. Quant à l'incroyable plafond de verre du CAC 40 en 2020, pour qu'on ne se pose plus la question franchement, il n'y a qu'une solution, il suffit de 20 femmes.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
C'est samedi, c'est Économie avec Coy Nguyen le réalisateur, avec Valentin Pérez attaché de production. Et à la technique ce matin, c'est Fabrice Desmaz qui nous accompagne. Les débatteurs sont là aussi. Bonjour Emmanuel Le Chypre de BFM Business qu'on a déjà entendu. Bonjour.
Bonjour à tous.
Emmanuel, Isabelle Cochère, Engie. Ça vous touche, vous, que la seule femme du CAC 40, elle soit écartée ?
Bah, le problème, c'est que son bilan laisse autant de place aux procureurs qu'aux avocats.
Elle n'a pas plus démérité qu'un autre ?
Bah, l'action n'a pas fait un bon parcours, hein, quand même, hein, par rapport aux concurrents. C'est même le pire parcours de tous les grands énergéticiens, à part EDF,
voilà.
C'est quand même pas une référence. Ouais. Après, effectivement, moi, ce qui me fascine, c'est quand même le jeu du capitalisme de connivence à la française. C'est-à-dire, à la fois, ces liens assez bizarres, quand même, et qu'on peut reposer entre l'État et ces grandes entreprises, même si l'État est actionnaire, et puis surtout le panier de crabe de tout. Cette consanguinité du capitalisme français, elle est unique au monde. Hein. Il y a des travaux d'universitaires qui l'ont documenté. C'est-à-dire, tous ces gens qui sont issus des grands corps d'ingénieurs, qui se détestent entre eux, les polytechniciens qui ont fait les ponts, les politiciens qui ont fait les mines, rajouter un peu là-dessus des énarques, rajouter une petite dose de franc-maçonnerie, etc. Et tout le monde est fait partie du conseil d'administration des autres. Ils sont tous... Voilà, c'est ces portes-là qu'il faut ouvrir aux femmes, évidemment. Mais pas seulement.
Et bonjour Vincent Grimaud d'Alternatives Économiques.
Bonjour.
On débat ce matin de l'étude de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, sur les gagnants et les perdants des choix budgétaires du gouvernement. C'est une étude qui a été très commentée. Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir avec nous l'un de ses auteurs. Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. J'imagine qu'il y a des économistes qui aimeraient avoir autant créé le débat que vous cette semaine. On en parle dans un instant. Au menu également de ce samedi, des questions sur notre souveraineté numérique. Le cloud, ce nuage virtuel à qui nous confions nos données, plus ou moins consciemment, est-il un danger ? Vous entendrez le reportage de Laurent Kramer. Et on poursuivra la réflexion avec notre invité, c'est le président de Microsoft pour la France, Carlo Purasanta. Il sera dans ce studio vers 9h45. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
On me dit que ce matin vous poussez un coup de gueule.
Oui, sur le congé pour le deuil d'un enfant mineur, il y a eu une concertation cette semaine.
Qui a été annoncée, ouais, qui a démarré.
Oui, qui a eu lieu, mais était-ce bien nécessaire sur un sujet aussi délicat ?
Coup de gueule tout à l'heure. Pour l'instant, les gagnants et les perdants de la politique économique. De qui Emmanuel Macron est-il le président ? Attention, grosse colère.
Faire un rapport sur la question de la justice de la politique du gouvernement en oubliant d'intégrer 1 milliard d'euros de primes d'activité qui vont précisément aux revenus les plus faibles. C'est pas honnête. C'est pas sérieux. Oublier d'intégrer dans ces calculs, par exemple, je pourrais citer d'autres exemples, le fait qu'il y a désormais un reste à charge zéro pour les frais dentaires ou pour les frais optiques. C'est pas honnête. Et c'est pas sérieux. Donc je conteste la méthode qui a été employée par l'OFCE. Mais plus que cela, je conteste l'esprit. Parce que dans le fond, La logique de ces rapports, c'est de dire à chaque fois il faudrait redistribuer toujours plus pour réduire les inégalités dans notre pays. Ben moi, je constate que l'on fait ça depuis 20 ou 30 ans et que ça s'est soldé par un chômage de masse, par de grandes difficultés, en particulier pour ceux qui sont les moins qualifiés, les plus démunis, à avoir accès à un emploi.
C'est l'étude des économistes de l'OFCE qui énerve Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie conteste donc la méthode et l'esprit. On en discute ce matin dans On n'arrête pas l'écho avec l'un des auteurs, Mathieu Plane. Mais d'abord, avant de discuter de la méthode de l'esprit, il faut savoir de quoi l'on parle. On regarde le fond de cette étude. Mathieu Plane, c'est la troisième fois que vous vous livrez à cet exercice depuis le début du quinquennat. Et là, ce sont donc les conclusions sur le budget 2020. Quelles conclusions ?
Oui, non, tout à fait. C'est-à-dire que c'est la troisième fois qu'on fait cet exercice, hein, donc à chaque budget, 2018, 2019 et 2020. Donc il y a une analyse hein, sur 2020 qui montre assez clairement une réorientation suite à 2019 hein, de la politique fiscale en direction des classes moyennes et notamment du travail. Hein. D'ailleurs, le titre de notre étude s'appelle « Du pouvoir d'achat au travail ». Et donc on voit cette réorientation. Après, on fait aussi un bilan depuis le début du quinquennat, hein, ce qu'on fait à chaque fois, une espèce de bilan en continu des mesures socio-fiscales qui montre effectivement qu'il y a des gains au niveau de la classe moyenne qui sont significatifs. Il y a des gains aussi qui sont très marqués, si on prend depuis le début du quinquennat, en haut de l'échelle des revenus, avec la réforme de la fiscalité du capital dès le début 2018. Et puis, on montre aussi qu'il y a encore des perdants à la politique socio-fiscale qui se situent plutôt en bas de l'échelle des revenus. L'idée étant de faire un bilan le plus exhaustif possible des mesures socio-fiscales et leur impact sur les niveaux de vie des ménages. L'idée n'est pas d'évaluer la politique économique, c'est pas de dire est-ce que c'est efficace ou pas. Donc c'est vraiment dire quels sont les effets redistributifs à un instant T de la politique économique menée par le gouvernement.
Est-ce que c'est la première fois que vous le faites ? Pour la première fois, je veux dire, est-ce que c'est le premier quinquennat durant lequel vous faites cet exercice ?
Alors on l'a fait à la suite de du quinquennat de François Hollande, hein. On l'a fait. Là, il se trouve qu'il y a des outils qui sont développés depuis quelques années, qui s'appellent des outils de micro-simulation, qui permettent justement d'analyser finement les mesures socio-fiscales. Donc on fait à la fois une analyse macroéconomique, hein, et on regarde l'impact macroéconomique sur la croissance, sur le pouvoir d'achat, notamment d'un point de vue plus global. Et puis après, on rentre dans un détail un peu plus fin des effets redistributifs de la politique économique. Et ça, aujourd'hui, les modèles permettent de le faire. On le voit que l'IPP le fait également.
L'Institut
on voit que
des politiques publiques, oui.
Le Trésor le publie aussi dans son rapport économique, social et financier. Donc c'est un nouvel exercice. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à comprendre. Et puis, ça peut créer effectivement un certain nombre de questions. Mais en tout cas, je trouve que c'est important pour le débat public.
Vincent Grimaud, vous l'avez évidemment lu avec attention, ce policy brief, cette étude. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce qu'elle est... C'est un regard précieux pour vous ?
Oui, c'est un regard précieux parce que c'est un regard précis. On a des détails, on voit mesure par mesure l'impact sur 2020, on l'a dit, et l'impact sur 2018-2020. Et donc, quand on regarde la trajectoire d'ensemble, eh ben, ça donne un peu une cohérence parce que c'est vrai que on entend le reste à charge, comme l'a évoqué le ministre, on entend les APL. Et puis, au bout d'un moment, on ne sait plus très bien, nous, journalistes qui suivons au quotidien, en fait, qu'est-ce qui compte ? Et donc là, ça permet en fait d'avoir une vision d'ensemble. Et la vision d'ensemble est très claire. Emmanuel Macron, sur 2018-2020, reste le président des très riches, le président des classes moyennes aisées, donc on va dire les classes aisées, c'est plus court et c'est plus précis. Et puis, c'est le président qui punit les pauvres et qui punit les chômeurs et les retraités. Et là, bah, effectivement, il y a un problème, puisque on est dans une situation où on est... peut-être dans une situation inédite. Alors on manque de recul par rapport à ce qu'a fait François Hollande et Nicolas Sarkozy, et on aurait envie notamment de comparer avec Nicolas Sarkozy, mais est-ce qu'on a déjà eu sur les 5% les plus pauvres des mesures aussi dures et des baisses de pouvoir d'achat telles ? Je ne suis pas certain.
On reviendra à cette question de l'étiquette un peu plus tard. Emmanuel Le Chip, vous sur la photo, sur le fond de l'étude, qu'est-ce que vous en retenez ? La même chose, il n'y a pas de discussion sur l'analyse ?
Non mais alors après, effectivement, c'est toujours extrêmement compliqué de pas oublier, de pas prendre en compte à la marge des mesures. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques critiques de Bruno Le Maire qui sont justifiées, mais je pense qu'il faut...
on va poser la question à Mathieu.
Après, je pense que ça ne remet pas en cause fondamentalement la photographie qui nous est faite.
Le virage des Gilets jaunes, ça, c'est ça qu'on voit en
alors,
fait finalement.
Après, il y a plusieurs sujets. Un, moi je trouve que d'abord... cette étude devrait être la norme. C'est-à-dire, en gros, on a quoi d'autre que finalement ce qu'on pourrait appeler une étude d'impact. C'est-à-dire qu'il est important, quand vous prenez des mesures de politique économique, de savoir exactement quel est l'impact de ces mesures. Je suis même fasciné, mais il faut dire que la France est la championne de la nullité des études d'impact. Quand on fait des politiques économiques, on ne mesure jamais en France, ou trop rarement, ce que ça donne. Et alors résultat, pour peu qu'une fois, pour une fois, on en ait une, ça y est, ça déclenche des trucs. Après, moi ce qui me gêne, c'est la lecture qui en est faite. La méthodologie, franchement, l'OFCE, ils sont sérieux, on les connaît, voilà. Après, on peut toujours reprocher certains trucs. Moi, ça me sidère toujours, par exemple, que on prenne en compte des mesures sur la fiscalité du tabac, parce qu'après tout, on est plutôt dans de la fiscalité incitative. Est-ce qu'il faut le prendre ou pas?
Alors, on va pas trop rentrer dans la technique, mais on va poser la question
à Mathieu
Plan, quand même.
Non,
sur la méthode, il y a une question de méthode.
Même si on admet les critiques de Bruno Le Maire, voilà, ça ne remet pas en cause la photo d'ensemble. Après, ce n'est qu'une photo. Et puis moi, ce qui me gêne, c'est l'usage qui en est fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si, finalement, chaque année, il y avait un gros gâteau à distribuer et qu'il fallait savoir à qui on donnait les plus grosses parts. Mais c'est pas ça le sujet. Moi, ce que je trouve, et c'est la faiblesse de cette étude, mais c'est pas la faute de l'OFCE, c'est la faiblesse de ceux qui l'exploitent, c'est que tout est présenté comme ça. C'est-à-dire que tout est présenté comme Vincent vient de le présenter. C'est-à-dire, est-ce que ça profite aux riches? Est-ce que ça profite aux pauvres?
Et c'est pas le sujet, Emmanuel.
Le sujet, c'est de savoir si cette politique économique, non pas seulement sur 2020, mais sur les 3 ans, a une forme de cohérence, et surtout la dynamique. C'est-à-dire qu'au-delà de la photo, quel est le film? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que cette politique économique, elle produit quel résultat? Et là-dessus, on peut quand même reconnaître que cette politique économique, elle produit aussi des résultats, y compris des résultats favorables pour les plus défavorisés, et que ce qu'on présente comme une politique de riches pour les riches ou contre les pauvres, c'est d'abord et avant tout aussi une politique pour les actifs et pour l'emploi. Et ça, c'est une autre lecture qui me paraît plus porteuse, plus riche que la lecture assez pauvre, sans mauvais jeu de mots, de est-ce que c'est pour les riches, est-ce que c'est pour les pauvres.
Alors, on va revenir à la lecture. D'abord, on évacue cette question de méthodologie. Est-ce qu'il y a un biais? Bon, Bruno Le Maire, il vous reproche. On va pas rentrer trop dans la technique, ouais. Mathieu Plan, mais quand même, Bruno Le Maire conteste le calcul, et même eux, ils en ont d'autres. Hein. Ils disent, vous avez oublié le reste à charge zéro. Enfin voilà, avez-vous oublié des paramètres?
Non. Alors, on a été le plus exhaustif possible. C'est-à-dire que c'est très difficile d'intégrer l'ensemble des mesures. Bien sûr que la prime d'activité est intégrée pour plus de 4 milliards d'euros depuis le début du quinquennat. C'est une mesure importante, on ne va pas l'oublier. Le zéro reste à charge aussi est intégré. Maintenant, se pose la question, comment vous intégrez d'un point de vue méthodologique la taxe carbone, le tabac? Toutes ces hypothèses nous sont discutées dans notre papier, sont transparentes. Et on arrive à ce résultat-là, il n'y a pas de problème à comparer tout ça. La difficulté, c'est de faire un travail justement sérieux et transparent sur cette question-là. Comme ça a été dit, une fois de plus, c'est une photographie, un instant T. On n'est pas là pour dire est-ce que c'est bien ou pas bien de baisser l'ISF, est-ce que ça permet d'avoir de l'attractivité, est-ce que ça génère de l'investissement, est-ce que ça génère de l'emploi. C'est pas la question qui est soulevée ici.
Ça, on va le demander aux débatteurs.
C'est notre type d'évaluation. Ouais. C'est un autre type d'évaluation qui est aussi important, mais qui est complémentaire à ça. On n'a pas d'effet dynamique, on n'a pas d'effet de baisse du chômage sur la redistribution. Ça, c'est des hypothèses qu'il faudrait développer par ailleurs. Mais je pense que cette question-là, elle va soulever toujours des questions de méthodologie, de savoir comment on impacte telle ou telle mesure, mais globalement, il faut savoir qu'il y a quand même un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 17 milliards d'euros global, avec, si vous prenez en moyenne par ménage, c'est 590 euros. Mais dans ces 590 euros, tout le monde ne gagne pas la même chose, et voire même, il y en a qui perdent. Et donc nous, les choses aussi un peu nouvelles qu'on a intégrées, c'est par exemple la réforme des APL, la réforme de l'assurance chômage, qui ne sont pas forcément intégrées par d'autres organismes. Et donc ça pose la question de savoir comment ça affecte toute cette distribution, tous ces gains de pouvoir d'achat qui sont importants, une fois de plus, qu'on soulève. On dit que on n'a jamais eu un geste fiscal depuis 2007 en direction des ménages, et c'est la première fois qu'on a un vrai retournement fiscal depuis 2019. Mais par contre, la question de la répartition reste soulevée, reste à être analysée, et la discussion, à mon avis, est encore ouverte. Le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup d'instituts à le faire, mais je pense que c'est important de le faire.
Est-ce que ça veut dire, juste une question, est-ce que ça veut dire qu'on a retrouvé le pouvoir d'achat de 2010? J'ai lu que nous ne l'avions toujours pas retrouvé.
Alors, on est revenu tout juste en 2018 au niveau du pouvoir d'achat de 2010. En 2018, 2019, 2020, il y a quand même un rebond assez net. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est quand même important sur la dynamique, c'est que historiquement, notre niveau de vie a augmenté. Et il a augmenté, si vous regardez le pouvoir d'achat par unité de consommation, 10 ans avant la crise, il a augmenté de 1,8% par an. Entre 2010 et 2018, c'est 0,1. C'est-à-dire qu'on a une vraie rupture. Si vous regardez historiquement, depuis la Seconde Guerre mondiale, ça n'était jamais arrivé. Donc c'est pas un phénomène juste de perception, cette histoire de pouvoir d'achat. Il y a vraiment eu un choc majeur, et dont une partie s'explique par la politique fiscale qui a été menée de 2010 à 2018, qui est en fait une austérité fiscale qui a été utilisée à la fois pour réduire les déficits publics et à la fois pour financer la compétitivité des entreprises. Donc on a eu un choc fiscal majeur qui s'est réparti à la fois par la fiscalité directe, indirecte, cotisation, fiscalité locale. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est important aussi d'avoir une analyse historique. Et j'ai oublié de mentionner ça. On a fait aussi un rapport dans Portrait Social de l'INSEE, justement sur l'impact de la crise sur les niveaux de vie entre 2010 et 2017, je crois, 2008 et 2017, qui montraient bien justement quels avaient été les effets de la crise sur le pouvoir d'achat et par les effets des mesures fiscales. Donc c'est des exercices qu'on développe de plus en plus et à mon avis qui sont importants pour comprendre un certain nombre de phénomènes.
Alors voilà pour la photo, voilà pour les questions de méthodologie. Maintenant, en effet, Bruno Le Maire, il dit, mais en fait, il dit comme vous finalement, Emmanuel Le Chip, Bruno Le Maire, il dit, je conteste l'esprit, la lecture de ceux qui disent, il y a un gâteau, le partage est inégal. La question c'est, en effet, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une logique économique à baisser la fiscalité du capital, à ponctionner sur les plus pauvres, en effet, les APL? Vincent Grimaud, vous, votre lecture?
Bah oui, tout à fait, c'est la bonne question et la réponse, elle est assez claire, c'est que pour l'instant, l'effet est très décevant. Alors évidemment, il faut patienter, on sait, c'est long, les entreprises vont pas se mettre à gagner des parts de marché en 15 jours parce qu'on a baissé leurs impôts, mais n'empêche que ça fait déjà plusieurs années, ce que vient d'expliquer Mathieu Plane, que les impôts des entreprises ont baissé et que ce, en contrepartie, c'est les ménages qui ont pris la charge. Et on constate quoi? Que l'investissement, eh ben, il est pas particulièrement dynamique, alors qu'on a en plus l'argent qui coûte rien, hein, des taux d'intérêt très faibles. En matière de commerce extérieur, notre balance commerciale s'améliore pas vraiment. Un petit peu en 2019, les exportations sont un peu reparties.
On vient d'avoir le chiffre.
Mais oui. C'est surtout aéronautique, pharmacie et luxe, donc pas des endroits où c'est un gain d'argent qui va vous faire gagner des parts de marché. C'est plutôt le fait de vendre très cher un produit de très bonne qualité. La croissance, elle ralentit depuis 2017 parce que la conjoncture internationale ralentit. Donc en fait, le seul indicateur très vert actuellement, je suis désolé, il faut le dire, c'est quand même les dividendes du CAC 40 qui sont à un niveau record, 60 milliards en 2019, on n'a jamais vu ça. Donc, on a eu d'un côté un apport de revenus très important pour le capital et pour les riches pour investir, et de l'autre...
Ça, c'est la baisse de l'ISF dont vous parlez. Ça, c'est la baisse de l'ISF, la flat tax, okay.
Une révolution de ce côté, et de l'autre, on a une situation qui stagne, c'est-à-dire que quand il y a de la croissance à l'international, on connaît à peu près une croissance, et quand il n'y a pas de croissance, on n'a pas de croissance. Donc, on est obligé d'avoir la lecture pauvre, désolé Emmanuel, mais on est obligé d'avoir cette lecture pauvre-riche, et les pauvres sont les grands perdants.
Alors, c'est bien pour ça que l'étude de l'OFCE, c'est un peu une grenade dégoupillée qu'on donne à des gens qui l'exploitent de façon aussi malhonnête que vient de le faire Vincent, parce que ce qu'il fait, voilà, c'est ça le danger. C'est-à-dire qu'en fait, cette étude de l'OFCE, on lui fait dire tout ce qu'elle ne dit pas. Et on veut lui prêter une ambition qu'elle n'a pas. Encore une fois, c'est une photo de ce que produit la politique économique.
Mais qu'est-ce que ça produit?
La réalité, c'est quoi? C'est que quand Emmanuel Macron, il arrive au pouvoir, il est nécessaire de normaliser quand même une fiscalité du capital qui est beaucoup plus élevée en France que dans le reste du monde et qui pénalise lourdement nos entreprises et nos investissements. Nos investissements, je le rappelle à l'occasion, le taux d'investissement, c'est-à-dire que l'effort d'équipement des entreprises aujourd'hui en France, il est à un niveau historique.
Mais les taux de marge aussi.
Jamais.
Les taux de marge n'ont jamais été aussi élevés.
Les taux de marge aussi, et c'est bien pour ça qu'il y a autant d'investissements. Et s'il y a autant d'investissements, c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'emplois. Je veux dire, on n'a jamais créé autant d'emplois en France. Vous n'avez jamais
dans les années 2000, on en crée beaucoup plus. On vient
publier 4% de croissance. Aujourd'hui, on a 1,3% de croissance. On crée 250 000 emplois par an.
Ça, on en a.
Vous n'avez jamais autant d'entreprises qui ont autant de difficultés à recruter. Et vous avez le chômage qui baisse. Et qui baisse pourquoi? Parce que parce qu'on embauche des gens avec des emplois bidons, des contrats précaires, etc. On embauche des gens à temps complet. On embauche des gens en CDI. Donc, cette politique, elle a un effet positif aujourd'hui. Et il faut la remettre encore une fois en perspective, puisque rappelons que la baisse des impôts du début de quinquennat compensait quand même le choc notamment François Hollande avec
la hausse de la fiscalité pendant la crise.
Et quand Vincent dit que ça n'a aucun effet, c'est pas vrai. Regardez tous les baromètres, par exemple sur l'attractivité de la France. Regardez, c'est fabuleux. On a eu cette semaine le baromètre de la Chambre américaine de commerce, qui nous dit quoi? Que il nous dit que les 35 heures et que les hausses d'impôts de Hollande en 2012 ont fait fuir les investisseurs étrangers. Vous croyez que si on recrée des emplois dans l'industrie en France, c'est parce qu'on a tiré les mouches avec du vinaigre? Non. Donc, je veux dire, cette politique, on peut pas nier qu'elle a un effet aujourd'hui qui commence à se produire. Attention, je veux pas dire que c'est que Emmanuel Macron. C'est le tournant de la compétitivité depuis le milieu des années 2010.
Bon, bah alors là, donc on a deux photos.
Pas dire Emmanuel. Il n'y a pas une cohérence dans la volonté d'avoir corrigé ce qui était les grands handicaps de l'économie française.
On a donc deux lectures très particulières, d'Emmanuel et de Vincent. Mathieu Plane, j'ai envie de me tourner vers vous, évidemment, pour vous demander si vous avez...
Je tranche, c'est ça?
Ouais, est-ce que c'est possible? C'est donc pas l'objet de l'étude, mais
on voit bien la difficulté de faire de l'évaluation. C'est-à-dire, à quoi on attribue les fortes créations d'emplois. On a 1 million de créations d'emplois depuis 2015, hein, et qu'on a une croissance très riche en emplois. Pour une part, c'est la politique fiscale, hein, c'est la montée en charge du CICE, du pacte de responsabilité qui a enrichi la croissance en emploi, il y a eu des allègements de cotisations. On voit qu'on a un rebond quand même de la croissance aussi depuis 2015. En fait, l'investissement, il repart dès 2015, hein, et pour des différentes raisons. Hein. Parce qu'on a une piste de sortie de crise, on a l'Europe qui part. Il y a la politique monétaire qui est extrêmement accommodante aussi, hein, qu'on oublie parler. Certains disent que c'est quasiment à 2000 points de PIB de croissance supplémentaire. Donc, identifier les raisons propres à une politique fiscale, c'est très compliqué. C'est multifactoriel, les effets, par exemple, sur l'emploi. Donc, ça va dépendre du prix du pétrole, des taux de change. Il y a les évolutions démographiques qui peuvent jouer. Il y a votre environnement commercial extérieur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc, toute la difficulté, c'est d'identifier des facteurs propres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un investissement qui est plutôt dynamique. On a plutôt beaucoup de création d'emplois. Mmh. Maintenant, il faut, bien sûr, réussir à identifier correctement ces différents facteurs. C'était pas l'objet de cette étude-là.
D'accord, j'ai compris.
Voilà.
L'étiquette président des riches. Est-ce que l'étiquette président des actifs, ça convient pas mieux?
Oui, si, ça convient beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est un peu un retour de boomerang, hein, pour Emmanuel Macron, parce que quand, évidemment, on s'acharne sur ce débat, est-ce que ça profite aux riches, est-ce que ça profite, c'est parce que lui aussi, il a quand même donné l'image de celui qui dépense beaucoup, qui distribue beaucoup. Parce que ce budget 2020, c'est quand même le fruit des revendications des Gilets jaunes. Ouais. Et aucun président n'a cédé autant d'argent à aussi peu de gens aussi vite. Parce que ce qu'il y a aussi dans l'étude de l'OFCE, c'est quand même que le déficit structurellement de la France se dégrade. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui dépense sauvagement et qui ne fait pas d'économie.
Emmanuel, ok. C'est merci pour cette réponse sur l'étiquette.
Irresponsable sur les dépenses publiques.
Mathieu Plane,
irresponsable, j'irai pas jusqu'à irresponsable sur les finances publiques.
Ouais. C'est quelqu'un qui...
En fait, il y a un arbitrage qui a été fait des côtés budgétaires. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ajustement structurel, donc... Et clairement, il y a eu une réorientation en direction des ménages depuis 2019, une forme de politique keynésienne, hein, quasiment depuis 2019, qui cible plutôt les ménages, pas au détriment de la politique d'offre, parce que la politique d'offre reste. Par contre, c'est plutôt au détriment des ajustements budgétaires, effectivement, qui sont plutôt reportés dans le temps et qu'ils seront peut-être, par exemple, avec les économies attentes sur la réforme des retraites, de l'assurance chômage, etc.
Voilà, Vincent, il devrait applaudir.
Alors,
mais j'applaudis.
Mais le mot de la fin, il nous reste quelques secondes. Vincent Grimaud, vous, votre étiquette, c'est toujours président des riches.
Mais oui, et puis le président qui punit les pauvres et les chômeurs. Et ça, c'est quand même dramatique. On le voit encore dans l'étude. Je veux dire, la réforme de l'assurance chômage, c'est un scandale, alors qu'il y a 90% des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas retrouver d'emploi, même si on arrive d'un coup à pourvoir toutes les offres de ce pays vacantes, faute de candidats, eh bien, il reste 90% de chômeurs.
Vincent Grimaud, Emmanuel Le Chypre et Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous trois. À venir dans la prochaine demi-heure, c'est notre invité Carlo Purasanta, le patron de Microsoft France. Le marché des nuages est en pleine croissance, nuages de données bien sûr. Le numéro 1 s'appelle Amazon, près d'un tiers du marché mondial. Loin devant Microsoft, Google est en troisième position. Alors ce matin, on n'arrête pas les cours, on n'est pas en train de découvrir l'absence des Européens. Il y a même déjà eu des tentatives de créer un cloud made in Union Européenne. Mais là, en ce moment, le sujet est en train de revenir avec force. La souveraineté numérique dans les priorités de Bruxelles. Plus les particuliers, plus les administrations, plus les entreprises, plus les services publics numérisent et stockent leurs données, plus le sujet devient sensible. Tenez, vous mettez votre veste, on sort du studio. Nous allons à l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement de Paris. Mais bien sûr, on va vous enregistrer sur le serveur, on va vous créer votre dossier médical. Et tiens, bonjour, voilà le monsieur numérique.
Bonjour, alors là vous vous trouvez au sein de l'hôpital Paris-Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement de Paris. Moi je suis Christophe Nicolaï, le directeur des systèmes d'information. Vous êtes ici dans un des accueils de consultation en diabétologie. Et donc vous avez ici, depuis l'admission du patient jusqu'à sa sortie, un processus qui est entièrement informatisé. On va saisir des données en interne et si on a quelques données qui sont en externe, on fait en sorte qu'elles soient sur des serveurs en France. Notre choix pour l'instant, c'est de laisser autant que possible les données sur nos serveurs pour pouvoir garder une maîtrise totale.
Donc ça veut dire que vous devez stocker des milliers et des milliers de dossiers de patients. Ici, elles sont stockées où dans cet hôpital ?
Alors ces données sont stockées dans deux salles serveurs de l'hôpital, dans les sous-sols de l'hôpital.
Est-ce qu'on peut aller les voir ?
Bien sûr, je vous y emmène.
Et voilà notre reporter, Laurent Kramer, qui suit le chemin des données des patients. Deux salles au sous-sol, il faut demander à la sécurité de badger. On sent bien que ces informations sont confidentielles et doivent le rester. Stockage sur place, des armoires maison, mais pour combien de temps? Et pour ceux qui ont recours à une armoire ailleurs, elles partent où ces données dans le nuage? Qui a le pouvoir? Qui a la souveraineté? Question centrale qui va vite se poser aussi ici, au cœur de l'hôpital.
Alors là, on va dans les entrailles de l'hôpital pour voir une des deux salles serveurs de l'hôpital, dans laquelle on entrepose toutes les données de l'hôpital.
Demain, est-ce que vous pourrez continuer à travailler de cette façon, à garantir que toutes les données sont ici, dans le sous-sol de l'hôpital?
Nous, on fait ce choix-là. Mais on va avoir une quasi-obligation à passer sur des stockages externes à l'hôpital. Vous avez par exemple des services d'intelligence artificielle que vous n'auriez pas forcément en interne parce que ça nécessite des serveurs qui sont très puissants. Vous pouvez augmenter aussi la palette de vos services en allant vers le cloud.
Qu'est-ce que c'est qu'un cloud? Vous pouvez nous l'expliquer?
Un cloud, c'est ni plus ni moins qu'un stockage qu'on va faire à l'extérieur d'une organisation, donc en l'occurrence à l'extérieur de l'hôpital si on met nos données dans le cloud.
Donc ça veut dire qu'il y a une tentation technologique, d'utilité, de coût d'aller vers des stockages externes, qu'on appelle aujourd'hui le cloud.
Plus qu'une tentation, je dirais qu'on a quasiment une obligation maintenant à le faire, puisque chaque société qui nous propose des logiciels sont en train de prendre un virage cloud et ils nous incitent très fortement à passer ce virage vers du stockage externe de nos données, dans la mesure où ils vont associer tout un tas de services et puis que tout simplement ils vont arrêter de maintenir les anciennes applications qui sont hébergées sur site. D'ici 5-10 ans, on va avoir 30-40% de données à l'extérieur de l'hôpital.
Les entreprises et les administrations se posent également la question de la confidentialité de leurs données. Il est urgent de rapatrier et de conserver les données les plus sensibles en France, explique Bruno Le Maire. Un appel d'offres a donc été lancé par Bercy pour créer un cloud de confiance français ou européen. Une loi américaine, le Cloud Act, servit de détonateur. Elle donne tout loisir à un juge américain de saisir les données françaises, explique Henri Dagrin. Il est le délégué général du CIGREF qui réunit les grandes entreprises du CAC 40 et les administrations sur la question de la cybersécurité.
Si l'Europe, la France, l'Europe ne sont pas capables de se doter d'une industrie du cloud de confiance, eh bien c'est notre autonomie stratégique, l'autonomie stratégique du continent qui est mise en cause. Lorsque en mars 2018 les États-Unis ont adopté le Cloud Act, on s'en est pas tout de suite aperçu et quand on a pris conscience de ce que ça pouvait représenter potentiellement comme risque pour le patrimoine informationnel numérique d'entreprise, on a trouvé ça choquant. Parce que là, on a beaucoup parlé de la localisation des données. La localisation des données est une partie du problème, mais ça ne résout pas tout, justement à cause du Cloud Act. Cloud Act, ça veut dire Clarify Lawful Overseas Use of Data. Ça veut dire clarification de l'utilisation des données qui sont au-delà de la mer. Donc ça veut dire que l'État américain a défini que, à travers le Cloud Act, eh bien, le juge américain pouvait imposer à une entreprise américaine de lui fournir les données de l'un de ses clients, quelle que soit la localisation géographique des serveurs qui hébergent ces données. Un peu comme si, par exemple, une entreprise américaine qui fait du stockage de meubles, vous prenez un box qui se trouve en région parisienne dans cette entreprise, eh bien, le droit américain dirait: ah ben non, le juge, il peut aller voir ce que vous avez entreposé dans ce local qui se trouve sur le territoire français.
Il existe pourtant des acteurs français du cloud, mais aujourd'hui bien trop petits face à Amazon Web Services qui domine le marché. Le gouvernement a donc demandé à Dassault, Atos, Thales ou encore OVH de plancher sur le sujet, créer un cloud souverain pour entreposer ses données en France ou en Europe est devenu stratégique, souligne Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud.
Je pense qu'il est important aujourd'hui que l'ensemble des comités de direction de toutes les entreprises prennent conscience de l'importance des données et de l'importance de leur protection. Il faut juste comprendre que ce qui est important, c'est que l'acteur, s'il n'est pas européen, eh bien, en particulier s'il est américain, il sera sous le couvert du Cloud Act et donc les données seront accessibles par la juridiction américaine.
Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le fantasme ?
Non, on n'est pas dans le fantasme. D'ailleurs, certains acteurs donnent des données aujourd'hui sur le nombre de requêtes faites par la justice américaine pour accéder à des données européennes. Donc, elles existent aujourd'hui. Il y a des centaines de demandes régulièrement chaque semestre qui sont faites à des acteurs pour accéder à des données en Europe et à travers une juridiction légale pour accéder à des données basées en Europe. Les données aujourd'hui, elles ont une valeur économique stratégique. En particulier, on voit bien aujourd'hui que les données peuvent être utilisées comme une arme économique par un certain nombre d'acteurs pour casser la concurrence, pour être capable d'avoir aussi des arguments pour contrer la concurrence. Et dans un modèle aujourd'hui qui quand même se tend au niveau géopolitique, il est clair qu'il faut comprendre que ces données stratégiques peuvent être un bras armé à travers des législations qui ne sont pas conformes à celles de l'Europe pour pouvoir préempter des positions économiques fortes. Alors aujourd'hui, oui, nous avons, nous, des clients qui viennent nous voir en disant « j'ai ces données-là, je souhaite aujourd'hui qu'elles restent en France et qu'elles soient dans un environnement juridique français, ou européen au moins, pour garantir la souveraineté de leurs données, la protection de leurs données, dans un cadre juridique qui soit clair et qui soit transparent, ce qui n'est pas le cas de bien des acteurs. »
La France et l'Europe ont-elles trop tardé? Est-il possible de créer un géant français du cloud capable de rivaliser avec tous ces géants américains et bientôt la Chine? La France a déjà essuyé deux échecs cuisants dans de précédentes tentatives. Ce ne sera pas simple, prévient Gilles Babinet, mais cela reste indispensable, explique l'ancien champion digital auprès de la Commission européenne, aujourd'hui à l'Institut Montaigne.
Aujourd'hui, pour être franc, je pense que Amazon, Google, Microsoft n'ont pas vraiment peur d'un cloud souverain. À eux trois, ils détiennent une quasi-totalité du marché du cloud. Et ce sont des acteurs qui, parce qu'ils ont une clientèle mondiale, ont atteint une taille critique extrêmement importante. Et donc effectivement, on part extrêmement tard et c'est difficile de les rattraper. En revanche, tout ça va évoluer. Donc ce qu'il faut jouer, c'est le prochain coup et pas les coups qui sont déjà tirés. L'émergence d'un cloud souverain, vraisemblablement, on va le voir apparaître au moins pour les données extrêmement confidentielles. Je pense par exemple aux données d'identité qui vont assurer qu'on a une identité précise sur les citoyens français, sur ce genre de choses. Ça, c'est pas possible de le confier à des acteurs privés de type GAFAM parce que on a besoin de souveraineté sur ces données. Et donc, il va falloir qu'on réunisse l'ensemble de ce type de besoins. Et là-dessus, qu'il y ait une impulsion de l'État qui dise, voilà, je finance mes propres besoins, je mets de l'argent sur la table. On commence à le faire. On le fait avec, pour ainsi dire, 40 ans de retard sur les États-Unis. On peut aussi définir des normes qui permettront à des entreprises privées, finalement, de rejoindre un certain niveau de confidentialité, de sécurité des données et de fait de susciter des nouveaux besoins sur lesquels des industriels du cloud pourraient être amenés à investir. De toute façon, il faut qu'on ait des acteurs européens, nationaux du cloud, et les besoins deviennent tellement énormes qu'il n'y a plus tellement d'alternatives. Il va falloir le faire. C'est pas non plus impossible, hein. C'est des technologies qui sont quand même largement accessibles.
Dans un monde où les objets, les administrations, les villes et les usines sont appelés à devenir connectés et à fabriquer en permanence de la donnée, la superpuissance des géants du numérique et de notre dépendance technologique soulève des questions jusqu'au sommet de l'armée. À la tête de la Direction générale du numérique, l'amiral Coustillère est le spécialiste de la cyberdéfense pour les armées françaises.
On est dans une confrontation technologique, confrontation pour la suprématie, effectivement, numérique du monde. Et je pense que ce domaine-là, la France et plus généralement l'Europe, a quasiment raté tous les différents plans informatiques depuis les années 60. On peut hurler contre Microsoft, contre ainsi de suite, mais il n'y a pas aujourd'hui d'alternative. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a réellement urgence à se réveiller. Le cloud, on voit bien qu'il reste encore quelques grands acteurs européens. Il faut absolument qu'il se développe. Et je pense que si nous ne réagissons pas, la fenêtre d'opportunité qui est de pouvoir pérenniser des grandes capacités de cloud, d'hébergement en Europe, je pense qu'il y a que quelques mois pour arriver à se mobiliser et à faire ses choix. Et si on rate ce tournant, eh ben vous laissez les deux locomotives, qu'ils soient chinoises ou américaines, déferler sur l'Europe, puisque le consommateur européen est riche. par rapport à d'autres pays du monde. Donc on va être le théâtre de combats économiques entre les grands acteurs de ces deux pays. Et on le voit bien, ça a déjà commencé. Regardez les débats sur la 5G. Si derrière il n'y a pas une industrie, si derrière nous n'avons pas des champions nationaux capables d'héberger de données, de les traiter, de les faire de l'intelligence artificielle, nous ne durerons pas très longtemps. Puisque aujourd'hui, l'arme informatique peut réaliser le rêve de Sun Tzu, c'est-à-dire vaincre sans combat. Donc pouvoir neutraliser une force militaire avant même qu'elle ait pu combattre, puisque vous attaquez son centre névralgique, vous attaquez l'ensemble du système informatique, vous êtes probablement capable de la neutraliser avant toute action.
Le cloud met-il à mal notre souveraineté ? C'était le reportage de Laurent Kramer.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et c'est le président de Microsoft France qui a accepté d'être avec nous ce matin pour continuer la réflexion. Bonjour et bienvenue Carlo Purasanta.
Bonjour, merci.
Microsoft numéro 2 du marché mondial du cloud. En France, vous avez 1800 salariés.
Oui, c'est ça.
4 centres de données. Est-ce qu'on peut savoir quelle est votre part du marché? Ça se dit, ça?
C'est à peu près les ratios qu'on a au niveau monde. Donc, on est bon deuxième avec une très belle croissance.
Alors, vous avez entendu le reportage. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de tensions sur cette question du cloud en ce moment. C'est un sujet qui est en train de monter. On a vu hier le commissaire Thierry Breton et le ministre Bruno Le Maire à Bercy. Ils nous ont dit qu'ils avaient longuement discuté du cloud européen. On entend aussi qu'il y a une nouvelle plateforme de données de santé qui réunit par exemple les données des hôpitaux, des pharmacies. Ça s'appelle le Health Data Hub et c'est vous qui l'hébergez. Et ça fait énormément débat. Comment est-ce que vous prenez cette inquiétude chez Microsoft?
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'inquiétude. Moi, je pense que c'est une prise de conscience. Et c'est très très bien que le débat soit aussi aigu et intense sur le sujet. Parce que les données, c'est quelque chose d'essentiel. La technologie, ça fait déjà une cinquantaine d'années que ça aide les femmes et les hommes à travailler de façon différente. Ça fait évoluer les entreprises, ça change la notion de productivité, de rapport collaboratif à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Ça change beaucoup de choses de comment nous opérons. Et en fait, avec les nouvelles intelligences numériques, il y a une vitesse de transformation que la technologie est en train d'apporter qui est forte. Donc le fait qu'en France et en Europe, on commence à se poser plus de questions sur les responsabilités, les avantages, les inconvénients, comment opérer, comment sauvegarder par exemple les données, comment garantir que les données restent secrètes, celles qui doivent rester secrètes. C'est très important.
Alors donc, est-ce que chez Microsoft, elles restent secrètes?
Bien sûr, nous on a un business, et c'est pour ça même quand vous dites en nous hébergeant des données. En fait, nous sommes une technologie au service de ceux qui en ont la maîtrise et qui hébergent des données, par exemple, de citoyens pour la santé ou d'autres choses. Donc nous, on considère, on a une vision très très claire là-dessus, que la technologie, c'est un moyen, et ça doit rester un moyen, dans les mains des femmes et des hommes. Et donc pour nous, bien sûr, on a une technologie qui est puissante, qui est forte, elle doit être utilisée par un client en fonction de ses spécifications pour atteindre un objectif. Mais la maîtrise, c'est la maîtrise du client, les données, c'est les données du client, et on est très respectueux de ce modèle.
Mais vous voyez que ce réveil, on l'a entendu dans le reportage, ce réveil il est beaucoup dû à cette loi qui date de mars 2018, qui s'appelle le Cloud Act, et qui dit qu'un juge américain peut aller fouiller dans les données françaises. Je vais vous poser une question simple, est-ce que si un juge américain dit « Bonjour monsieur Microsoft France, j'aimerais regarder les données de tel particulier français parce que j'en ai dans un dossier pénal », est-ce que vous donnez ces données?
Alors, c'est très bien de clarifier ça. Nous opérons dans 170 pays. Dans chaque pays, nous devons répondre, d'un point de vue légal, à des demandes d'un juge ou de la police sur une enquête. C'est juste normal. Et d'ailleurs, j'entendais dans le reportage tout à l'heure, c'était très bien dit, il y a des statistiques, c'est-à-dire qu'on publie aussi le nombre de demandes qu'on a, etc. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est vérifier que la demande est en bonne et due forme, en fonction de la loi, et on doit y répondre si elle est en bonne et due forme. Et on le fait systématiquement en France pour la justice française, en Italie, que je connais aussi pour la justice italienne, et ainsi de suite.
Mais si un juge américain s'intéresser à un particulier français ou une entreprise française?
Alors, le Cloud Act, effectivement, c'est déjà, il faut contextualiser, c'est dans une enquête criminelle, donc c'est déjà relativement rare. Et ça doit être donc le cas où ça s'applique à travers Microsoft et pas l'entreprise, et c'est dans le cas où l'entreprise dont on parle n'opère pas aux États-Unis. Parce que sinon, l'entreprise... Admettons une entreprise française qui opère aux États-Unis, elle est soumise aussi au Cloud Act, exactement comme nous. Donc la donnée, le juge va y accéder. Encore une fois, en parlant de statistiques, il y a...
Mais donc j'entends, Carlo Purasanta, pardon, mais j'entends qu'en effet, s'il y a un juge américain qui vous demande, le Cloud Act fait que vous êtes obligé de donner la donnée.
on peut être obligé, mais parlons de statistiques, parce que c'est combien de fois cette donnée peut être donnée. Il y a les données sur le premier semestre 2019. Vous savez combien de fois une entreprise qui n'opérant pas aux États-Unis a dû donner une information? Une fois dans le monde, sur un semestre. Alors, moi je voudrais juste mettre ça en équilibre par rapport à d'autres problématiques qui sont des problématiques de sécurité, où on parle de hackers qui rentrent dans les systèmes d'information de nos clients.
Ça, c'est est-ce que le coffre et Microsoft dit, mais nous, on a un super coffre-fort.
Pour moi, okay. La chose la plus importante, c'est de mettre les données en sécurité et donc garantir au client qui est le maître de ces données, ben, qu'il en a la maîtrise tout le temps.
Carlo Purasanta, un autre sujet épineux, désolé, on commence par ce qui fâche, hein, entre l'Europe, la France et puis les GAFAM, c'est la taxe GAFA. Alors, il y a eu un premier acompte de versé à Bercy, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez versé, vous, au titre de la taxe GAFA?
Non, on n'a pas versé d'acompte. Et d'ailleurs, vous dites GAFA, mais puis c'est la taxe GAFA. Ça, c'est sur des activités online qui, pour Microsoft, sont marginales. Donc, ça ne nous concerne pas vraiment. Cela dit, le débat est très intéressant. Et bien sûr, bah, s'il y a des modifications de loi, on respectera les lois telles qu'elles seront. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a changé de modèle radicalement ces 10 dernières années. Donc, on est passé dans un modèle de licensing de logiciels à un modèle de cloud. Et en fait, nous sommes une entreprise qui, il y a 7 ans, si je me souviens bien, a décidé d'entamer une réflexion de comment la modification de modèle devait apporter aussi une modification de comment on paye les impôts.
C'est-à-dire,
Exactement. Okay. Nous avons changé proactivement en considérant qu'il y a des choses que nous faisons aux États-Unis pour faire de la recherche, que nous faisons dans des plaques géographiques pour distribuer, mais on vend dans les pays et on fait en sorte de payer les impôts dans toutes les zones dans lesquelles on opère, bon, en fonction de la valeur ajoutée qu'on y met. Et c'est d'ailleurs ce que nous discutons avec l'OCDE, parce que c'est des modèles sur lesquels on apprend tous.
C'est un dossier qui n'est pas terminé. La discussion sur la part que doivent payer les entreprises du numérique à chaque pays n'est pas terminée. Alors, on sait que cette entreprise numérique, elle est très polluante. Je lisais ce matin que si elle était un État, elle serait le troisième État le plus polluant après les États-Unis et la Chine, entre les clouds, les joueurs de consoles, la fabrication des consoles. Et la nouveauté de cette année, c'est que Microsoft promet qu'il va devenir super vert.
Alors, on parle beaucoup de l'informatique comme étant effectivement une des industries qui pollue le plus ou qui emmène plus de CO2. Ça représente 4% de l'impact carbone dans le monde. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est vrai que c'est une forte croissance, parce que c'est une croissance de entre 10 et 15%. Donc il faut qu'on soit très attentif. Et notre président a dit quelque chose de très fort l'autre jour. Il a dit, déjà nous on avait fait, je tiens à le dire, on était la première entreprise à avoir mis une taxe carbone interne pour être responsable au moins. Et donc depuis 2012, nous sommes carbone neutre. C'est pas suffisant, parce que c'est pas parce que tu payes avec de la reforestation ou autre chose que tu as des comportements qui sont vraiment neutres et tu amènes vraiment des choses positives pour le climat. Et donc notre président a dit, même si on se fait, si on a une politique et des programmes qui sont cohérents avec la COP21, tout le monde ne sera pas à la moyenne. Et donc il faut que ceux qui peuvent faire plus fassent plus dès à présent.
Donc, qu'est-ce que c'est vos nouveaux objectifs?
Donc, nous
chez
allons
Microsoft.
Devenir, nous allons avoir nos data centers, ils vont être complètement basés sur de l'énergie renouvelable à partir de 2025. Donc, c'est vraiment demain. Ensuite, en 2030, nous allons passer dans un rapport négatif. Donc, ça veut dire que nous allons réabsorber plus de carbone de ce que nous allons émettre. À partir de 2030, en étant négatif, nous allons commencer à réabsorber le carbone que nous avons émis depuis 75, depuis notre naissance. Et en 2050, on aura effacé l'empreinte carbone de Microsoft de toute son histoire.
Donc on efface, finalement, on efface le carbone émis, mais en fait on continue quand même évidemment à vendre des consoles et à ouvrir des centres de données.
Oui, mais
on change pas le modèle économique, mais on efface.
Mais qui seront entre-temps tous beaucoup plus vertueux, parce que les data centers, ils seront complètement énergie renouvelable, donc en empreinte carbone très faible. Et on continuera pour des activités. Et en plus, on considère notre scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire aussi l'indirect. Et donc, on va regarder comment, globalement, nous faisons en sorte que notre écosystème soit vertueux.
Un mot de Chine ce matin, parce qu'on a quand même cette épidémie de coronavirus. Et vous êtes, Microsoft, très présent en Chine. Vous avez le plus gros centre de recherche et développement. Vous fabriquez vos consoles là-bas. Qu'est-ce qui se passe pour Microsoft face à cette pays en quarantaine?
On fait une grande attention. Heureusement, avec les outils collaboratifs aujourd'hui, beaucoup de nos collègues peuvent travailler de la maison, donc on se déplace certainement beaucoup moins. D'ailleurs, pas seulement en Chine, mais même, je pense, depuis cette semaine à Singapour, parce qu'il faut faire attention dans les zones limitrophes. Donc voilà, on fait très attention. Il y a une cellule de crise permanente qui regarde comment ça se passe et qui conseille tous les collaborateurs Microsoft tous les jours.
Mais vous attendez à des conséquences?
Pas encore, non, il n'y a pas de conséquences particulières.
Carlo Purasanta, le patron de Microsoft en France. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci beaucoup.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Mercredi, la ministre du Travail a entendu les organisations patronales et syndicales sur le congé pour le deuil d'un enfant mineur. Sandrine, est-ce qu'on a besoin d'une concertation sur un sujet aussi délicat que celui-là ?
Personne n'est dupe, Alexandra, surtout pas les partenaires sociaux. Quand un sujet comme le deuil d'un enfant provoque de grosses vagues d'indignation, il est urgent de prendre la tangente. En général, on lance un groupe de travail ou une concertation. En moins de temps qu'il n'en faut pour prendre une ordonnance, les organisations patronales et syndicales ont donc été conviées mercredi par la ministre du Travail pour colmater une brèche qu'ils n'ont pas ouverte. À l'origine du désastre, la majorité a retoqué la proposition du député centriste Guy Bricout d'allonger de 5 à 12 jours le congé accordé aux salariés qui ont perdu un enfant mineur. Les députés En Marche ont suivi Muriel Pénicaud qui a estimé que ce congé, financé à 100% par les entreprises, les pénaliserait. Sauf que les employeurs n'en demandaient pas tant. Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron des patrons, a même demandé que la proposition soit à nouveau votée. En 2018, selon l'INSEE, 4156 enfants ont perdu la vie avant leurs 18 ans, dont la moitié avant leur premier anniversaire. Il serait indécent de calculer combien la mesure coûterait aux employeurs et les partenaires sociaux, tous sur la même ligne, n'ont pas besoin d'une concertation pour savoir que ça pèse pas lourd.
Sandrine, la bonne nouvelle, c'est que le texte qui revient le 3 mars au Sénat sera amélioré.
Oui, Emmanuel Macron a demandé que les parlementaires fassent preuve d'humanité, ce sera sûrement le cas. Du côté des partenaires sociaux, ils sont tous d'accord pour que le congé soit porté à 12 jours minimum, qu'il soit fractionnable, accordé aux salariés du privé, mais aussi aux fonctionnaires et aux indépendants, qu'il puisse concerner des enfants à charge au-delà de 18 ans et qu'une aide psychologique soit envisagée pour les parents. La ministre plaide pour que le congé soit pris en charge par la solidarité nationale via la Sécu. La compensation votée par la majorité la semaine dernière, qui consiste à donner des jours de RTT à une ou à un collègue endeuillé, devrait être maintenue. Encore faut-il avoir des jours à donner, surtout dans les plus petites entreprises. Et tant qu'on y est, il y a des choses à dépoussiérer. Beaucoup de conventions collectives sont bienveillantes, mais d'autres prévoient que si le décès intervient pendant les vacances du salarié, les jours de deuil passent à la trappe. Tout ce qui pourra éviter les mesures mesquines sera le bienvenu.
En effet, les indispensables mises au point sur la vie au boulot de Sandrine Foulon.